Alors, merci pour cet accueil très chaleureux que vous m'accordez ici. J'ai eu le plaisir de faire connaissance avec déjà pas mal de monde cet après-midi en faisant le tour du lac et puis en prenant le goûter. Je n'ai pas encore serré la main à tout le monde, et je vais certainement mélanger les prénoms un petit peu, mais vous me pardonnerez. Mais voilà, c'est ma joie d'être avec vous, ma joie de retrouver Simon. On a roulé notre bosse ensemble dans les années 70, ça remonte, hein? Ça ne nous rajeunit pas. Et alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire pour que vous compreniez un peu plus comment ce monsieur arrive devant vous là cet après-midi. Vous avez compris par mon accent que j'ai des origines au-delà de la Manche. Hein?
C'est bien ça.
C'est bien. Mais européenne quand même.
Oui. Et puis, mes ancêtres étaient normands. Et ils sont partis conquérir l'Angleterre. Voilà, j'ai des antécédents du côté de Lisieux en Normandie. Mais je ne saurais pas vous expliquer comment ça s'est fait, mais je suis tombé amoureux de la France très, très tôt. Et puis je suis tombé amoureux d'une Française un peu plus tard. Et le Seigneur s'est arrangé pour que je vienne vivre mon ministère ici en France. J'ai le privilège, alors certains ne seront pas d'accord, j'ai le privilège d'être parisien et d'avoir le métro en bas de chez moi et de vivre dans une rue où il y a du passage tout le temps jusqu'à 2h du matin. Il y a des gens aux terrasses des cafés et puis le matin à 6h ça commence déjà à bouger. Alors je viens d'une ville où il y a beaucoup de mouvements. Mais je viens avec plaisir découvrir ce joli coin de l'Auvergne je comprends pourquoi vous êtes à Clermont parce que vous avez beaucoup de belles choses autour. J'espère qu'on aura l'occasion de faire meilleure connaissance entre nous là, pendant le week-end et de discuter de plein de choses, parce que je suis un passionné de l'Église et j'ai ce privilège d'être un peu spécialisé dans la théologie pratique. Tout ce qui concerne l'Église, la vie de l'Église, ça me passionne. Et quand j'ai une invitation à parler du projet d'Église comme ça, j'ai du mal à résister et à dire non. Alors, avez-vous des projets? J'ai parlé tout à l'heure à Cécilia et Bernard qui ont des projets de voyager et de faire un tas de choses intéressantes. Hein? Mais avez-vous des projets? Oui? Dans le genre? Sans travail de confidence?
Différents genres. Au niveau du travail, déjà, j'ai des projets. Et puis au niveau de mes loisirs, enfin des engagements hors travail, j'ai aussi des projets.
Ouais. Par exemple, juste un exemple.
Par exemple, là tout de suite, j'avais un projet d'acheter une maison pour faire du locatif.
Ah, donc retaper la maison. Ouais. Est-ce que vous avez des projets? Damien, qu'est-ce que vous avez comme projet?
Je pense que nous, surtout à cette période de notre vie, on a tous des projets professionnels, sentimentaux aussi.
Ah oui, voilà, il en était question tout à l'heure. Dommage qu'elle soit loin.
Dommage qu'elle soit loin, oui. Mais pour l'instant, c'est plus peut-être un mariage comme un projet, et puis un projet professionnel aussi.
Ouais.
Il y a des cours à passer.
je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui vivent de projets. Il y a d'autres qui sont casaniers. Je suis tranquille, j'entre chez moi, je regarde la télé et ça va très bien. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez les projets. Et au lycée, si j'ai bien compris, en filière ES, on étudie le processus d'élaboration de projets. C'est quelque chose qui va rentrer de plus en plus dans les habitudes des Français. Et est-ce que dans votre entreprise, si vous travaillez, est-ce qu'il y a un projet d'entreprise? Ou dans votre administration, un projet de service? Vous êtes dans une association, il y a un projet de vie associative. Et c'est pour cela que c'est peut-être intéressant de parler aussi de projet d'église. Dieu aussi a des projets. Et c'est peut-être parce que nous sommes ces créatures que nous sommes des êtres à projet. Il y a environ 4000 ans, Dieu avait un projet. Et il est allé frapper chez un particulier en Syrie, un immigré d'origine irakienne, un homme d'un certain âge. C'était un homme riche, possédant des esclaves, des troupeaux et de l'argent, un homme marié, mais n'ayant pas d'enfants. Et nous lisons au début de Genèse 12, et si vous avez votre Bible, c'est bien de regarder directement Genèse 12. Je lis dans la version Parole de vie. Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Lorsque Dieu a des projets, nous pourrions nous attendre à ce qu'il ait besoin de personnes au-dessus du lot. De gens extraordinaires. Mais il semble qu'ici, il n'en est rien. Pourquoi Dieu choisit-il cet homme-là? Nous ne le savons pas très bien. Mais il semble que Abraham est un homme normal. Un homme qui a ses qualités et ses défauts. Alors, dans ce chapitre, nous voyons que Abraham a une grande qualité. Il écoute Dieu et il fait tout de suite ce que Dieu lui demande. Mais il a aussi des défauts. Par exemple, plus tard, dans ce même chapitre, pour sauver sa peau, il raconte des mensonges et il met sa femme en danger. Ce n'est pas un homme très courageux. Nous pourrions vraiment nous étonner de ce choix de Dieu. Pourquoi il est allé frapper ce jour-là chez Abraham? Pour donner naissance à un grand peuple, au lieu de choisir un jeune couple en parfaite santé, Dieu choisit un homme d'un certain âge ayant une femme stérile. C'est pas très logique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que avec ses projets, Dieu voit grand. À partir de ce couple si peu prometteur, Dieu veut faire naître un grand peuple et il veut le bénir. Jusque-là, pas vraiment de problème. Ici, qui veut être béni? Bon, je vois que vous dormez tous. Qui veut être béni? Hein? Il y a des gens qui dorment déjà et qui n'ont pas répondu, mais tous ceux qui sont réveillés ont répondu, oui, moi je veux être béni. Des candidats à la bénédiction, cela se trouve à l'appel. Mais Dieu veut plus que cela. Il ne veut pas seulement bénir Abraham, mais il veut qu'Abraham et sa famille deviennent une bénédiction pour toute la terre. Et là, c'est déjà plus difficile à trouver des candidats. Il ne suffit pas d'être béni, mais il s'agit d'accepter de partager sa bénédiction avec d'autres. Et pour accomplir les projets de Dieu et devenir une bénédiction pour les autres, il y a souvent un prix à payer. Abraham doit faire confiance à la parole d'un Dieu qu'il ne connaît pas encore bien. Sans versement d'art, sans la mise en place de garanties, sans contrat signé en bonne et due forme, sans production de preuves tangibles, Abraham doit se mettre en marche sans savoir où il va. Moi, je préfère savoir où je mets mes pieds. C'est plus sûr. Mais Abraham doit quitter sa famille et sa maison. Il doit accepter d'être séparé de ceux qu'il aime le plus. Il doit renoncer au confort du nid douillet. Il va perdre tous ses repères. Il doit quitter son pays et s'en aller dans un pays inconnu et s'adapter à une situation complètement nouvelle. Alors, je vois ici qu'il y a des gens qui aiment ça. Hein? Ils parlent de la France, du Canada, de la Chine, dans la même phrase, et tout ça, ça ne les gêne pas. Mais moi, j'aime bien être chez moi. Et quand je commence à évoquer la possibilité un jour de quitter notre appartement parisien pour aller en banlieue, mes enfants disent « Ah, surtout pas ça, on est bien ici. » Et moi, je suis très bien ici en France. J'ai pas envie de changer de pays et de culture. Si le Seigneur m'appelait l'année prochaine en Afrique, ce serait quand même... ça me bousculerait. Évidemment, Abraham peut faire la sourde oreille. Ou il peut répondre qu'il n'est pas le bon candidat. Ou il peut proposer que, à sa place, Dieu prenne son neveu, Lot. Et Abraham peut tranquillement disparaître de la scène. et vivre sa vie tranquille et être oublié à tout jamais. Mais Dieu avait des projets. Sans ce projet, Abraham aurait pu vivre une vie tranquille, une vie de riche, une vie sans histoire. Mais Abraham accepte de se mettre en marche avec Dieu. Et il accepte d'aller dans le sens de devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors, c'est formidable ça. Un homme qui écoute et qui obéit et qui se met en marche. Après cela, n'est-ce pas, tout devrait aller comme sur des roulettes. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, c'est le bonheur, c'est le salut, c'est... Hein? Mais... En fait, ce voyage qu'Abraham fait avec Dieu commence très mal. Il arrive dans le pays que Dieu lui montre et c'est la famine. Il n'y a que dalle, rien à manger. Il n'y a pas le moyen de gagner sa vie, de vivre. Tout de suite, en arrivant, c'est ça. Et puis, très vite, dans ce pays que Dieu lui a montré, il n'y a pas assez de place pour Abraham et pour son neveu Lot. Et ils sont tout le temps en train de se marcher dessus, l'un l'autre. Et ils doivent se séparer. Et puis, il y a une guerre dans la région. Et le pauvre Lot est embarqué, capturé. Et Abraham doit aller à sa rescousse. Le projet de Dieu n'était pas si évident que ça. Et puis, l'enfant promis n'arrive pas. Les années passent. Et le projet de Dieu n'avance pas d'un seul pouce. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pareille situation? Un jour, Abraham a une idée lumineuse. Il va donner un petit coup de main à Dieu. Et il fait un enfant à son esclave. Mais cela crée encore des histoires dans la famille. Et un peu plus tard, il doit le chasser avec sa mère. Combien de temps Abraham et Sarah doivent-ils attendre pour voir le début de la réalisation de ce projet de Dieu? Ils doivent attendre et prier pendant 25 ans. C'était le projet de Dieu, mais c'est loin d'être automatique. Et juste au moment où ce projet de Dieu commence vraiment à prendre forme, Isaac grandit, devient un beau jeune homme. Il y a quelque chose d'impensable. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais il ne comprend rien. Tout cela. Le projet de Dieu est loin de passer comme une lettre à la poste. Mais si nous sommes là, aujourd'hui, c'est une partie de l'accomplissement du projet de Dieu. Et combien nous pouvons être reconnaissants pour la famille d'Abraham et reconnaissants du privilège d'être adoptés dans cette famille. Quel est votre verset préféré? Quelqu'un peut me dire son verset préféré? Non? Vous les aimez tous? Oui? Quelqu'un a un verset préféré?
Jean 3:16.
Dieu a tant aimé le monde. Ok. Je sais que pour un certain nombre de personnes, le verset préféré est dans le prophète Jérémie. Là encore, parce que vous avez votre Bible, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je les déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Quelles images viennent à votre esprit lorsque vous entendez ces paroles? Des projets de bonheur pour vous. Qu'est-ce que vous voyez?
L'espérance de la vie éternelle.
L'espérance de la vie éternelle. Alors, ce seraient des projets futurs. Lointain.
Je vois au bord de la mer avec un petit bar.
Oh. Tiens. En fait, je suis passé à la CLC pour voir si je pouvais les prendre en flagrant délit hier. Mais je n'ai pas réussi. Parce que j'ai souvent vu ce verset sur fond de montagnes enneigées avec un paisible lac devant. Voilà, je connais les projets que je forme pour vous, des projets de bonheur. Enfin, on s'imagine dans un lieu idyllique, tranquille, à la retraite, à couler des jours paisibles. On n'est pas aussi spirituel que notre sœur avec cette vision du ciel. Mais, alors, malheureusement pour Olivier, ce verset ne visait pas une situation au bord de la mer. Hein? Savez-vous dans quelles circonstances cette promesse est faite? Je forme des projets pour vous de bonheur. En fait, au moment où Dieu dit cela à son peuple, ce peuple vient de passer par la plus terrible épreuve de son histoire jusqu'alors. Bonheur, bonheur à vous. En fait, bon, au moment où Dieu dit cela, la ville de Jérusalem vient d'être détruite et le royaume de Juda a été vaincu par les Babyloniens. Et le peuple est en exil à Babylone. Ils sont là depuis un moment, mais ils n'ont même pas défait leurs valises. tellement ils sont malheureux. Ils n'ont qu'une seule ambition, un seul désir, c'est de rentrer à Jérusalem. Alors Dieu leur dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. Et vous savez exactement à quoi ils ont pensé en entendant ces paroles. Dieu nous ramène chez nous, à Jérusalem. Mais ce n'était pas ça. Les projets de Dieu pour son peuple étaient de le laisser à Babylone pendant 70 ans. Et Dieu, tu appelles ça un projet de bonheur? Dieu avait décidé que le peuple devait rester 70 ans à Babylone. Dieu veut que le peuple s'y installe, que le peuple bâtisse des maisons, qu'il plante des jardins. Il demande même qu'il prie pour la ville de Babylone et qu'il participe au développement de la ville de Babylone. Il veut que son peuple soit une bénédiction pour la ville de Babylone. Parce que, justement, le peuple de Dieu n'avait pas bien compris que la bénédiction n'était pas seulement pour lui, mais que la bénédiction était à partager. Et Dieu a placé son peuple à Babylone pour qu'il soit une bénédiction. Les projets de Dieu n'étaient pas les mêmes que les projets du peuple, mais c'était des projets de bonheur et de bénédiction. Vous savez, c'est à partir de cet exil à Babylone que le peuple juif a commencé à multiplier les implantations de synagogues. Le moyen de survivre à Babylone, c'était de créer des maisons de prière pour maintenir la foi et l'espérance. Et les synagogues allaient devenir des lieux de rayonnement et des lieux d'annonce de ce Dieu, ce seul Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël, partout dans le monde habité de l'époque. Alors, je ne les connais pas aujourd'hui, mais je ne serais pas surpris que Dieu ait des projets pour vous, chrétiens de l'Église baptiste de Clermont-Ferrand. Mais quels sont ces projets? Vous auriez peut-être des pistes à lui proposer. Surtout si c'était des projets pour vous qui vous ramenaient un peu plus vers le soleil, un peu plus vers la mer, vous ne seriez pas fâchés. Mais nous avons peut-être le même problème que le peuple de Dieu à Babylone. Nous n'avons pas forcément les mêmes projets que Dieu a pour nous. Et évidemment, cela crée des tensions et des frustrations dans notre vie. Alors, nous allons commencer par prendre un peu de recul et essayer de comprendre quel est le grand projet de Dieu dans lequel son projet pour l'Église et son projet pour chacun de nous pourrait s'insérer. En fait, lorsque nous prions le Notre Père, nous évoquons les grandes lignes du projet de Dieu. Nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le projet de Dieu, c'est l'établissement de son règne partout dans l'univers. Et Jésus nous associe à ce projet en nous donnant une priorité absolue pour notre vie. Est-ce que nous l'avons compris? Quelle est la priorité absolue pour chaque enfant de Dieu, pour chacun de nous ici aujourd'hui? Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. En fait, depuis 4000 ans, le projet de Dieu n'a pas changé. Comme à l'époque d'Abraham, Dieu veut bénir son peuple. Il est comme ça. Il veut nous bénir. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu veut que nous soyons une bénédiction pour toute la terre. Dieu veut bénir, je crois, l'église baptiste de Clermont-Ferrand. Et il veut que l'église soit une bénédiction toujours plus grande pour les autres. Comme Abraham, vous n'avez rien de particulier. Vous êtes des gens normaux. Vous êtes une église normale, avec vos qualités et vos défauts. Dieu veut vous bénir et il veut que vous partagiez la bénédiction avec d'autres. Il veut vous donner des enfants et il veut que vos enfants soient une bénédiction pour d'autres. Alors, comment des églises peuvent-elles devenir une bénédiction pour toute la terre? L'Église est l'épouse de Christ. Et sans trop forcer l'image, je pense qu'on peut comparer la vie d'une église locale comme la vôtre à la vie d'une femme. Et qu'on peut parler de sa fécondité ou de sa stérilité. Et on peut attribuer à l'Église la notion de maternité. Au cours du XXe siècle, le taux de natalité en France tombe de 21 naissances pour 1000 habitants au début du siècle, 21 naissances pour 1000 habitants, à 12 naissances pour 1000 habitants à la fin du siècle. Il y a une chute presque continue et constante de la natalité en France. Pour un certain nombre de raisons. Aussi à cause de l'amélioration des soins et la baisse de la mortalité. Mais il y a baisse de natalité. Et dans les années 1990, on parle de baby crash. On se demande si on ne va pas vers la dépopulation de la France. En parallèle avec ça, si on parle des églises, de la natalité d'église, on assiste dans la deuxième moitié du XXe siècle à une explosion de naissances d'église. Et vous venez de fêter vos 25 ans d'église. Vous êtes une église de ce baby-boom de la fin du XXe siècle. Et il y a énormément de choses passionnantes qui se sont passées à ce moment-là. Mais à la fin des années 90, il y a une baisse de natalité. un ralentissement dans la naissance et l'implantation d'Église. C'est peut-être pas à un homme d'en parler, mais j'espère que les dames me pardonneront. La maternité humaine, si j'ai bien compris, et je suis père de 4 enfants, la maternité humaine est une expérience mêlée de joie et de douleur. Après une longue période de gestation, il y a tout d'un coup une explosion de vie à la naissance. Et puis, il y a la joie de voir les progrès de l'enfant vers la maturité. Le petit James qui fait de beaux sourires quand on lui chatouille les pieds. Et puis, Elliot qui commence à s'intéresser à un tas de choses. Et puis, ça grandit et ça avance. Mais ces années de croissance sont souvent suivies par des temps de remise en question et des heures dans l'évolution vers l'autonomie qui débouche quand même, enfin, à une belle complicité, le plus souvent, entre les parents et les enfants. Et si je parle de maternité d'Église, c'est un peu semblable. Il y a à la fois des joies et des douleurs dans la maternité d'Église. C'est une expérience passionnante, mais c'est aussi un engagement à vie. Et on ne sait jamais où on met les pieds. Je pense qu'on peut parler aussi d'un cycle de vie d'Église, comme le cycle de la vie humaine. Conception, gestation, naissance, croissance, maturation, reproduction, et puis vieillissement et mort. Les Églises naissent, elles grandissent, elles se reproduisent. Et puis, malheureusement, certaines vieillissent et meurent. Alors, vous êtes une belle jeune femme de 26 ans. Et la vie est devant vous. Alors, quelle sera votre vie ? Il y a différentes sortes de femmes, n'est-ce pas? Il y a des femmes indépendantes. Des femmes qui sont femmes avant d'être épouses et épouses avant d'être mères. Ce sont des femmes qui veulent bâtir une carrière, qui veulent faire des choses dans la vie, qui veulent laisser quelque chose à la postérité. Et ces femmes-là n'ont pas beaucoup de temps pour les enfants. À l'autre extrême, il y a les mères épanouies. Leur plus grande joie, c'est d'avoir un petit à pouponner, à avoir toute une ribambelle de gamins autour d'elles. Et puis, quand les enfants grandissent, leur plus grande joie, c'est de les réunir autour d'une grande table et de passer un moment agréable à jouir de toutes les joies de la famille. Et puis, il y a des mères qui peinent dans la maternité. Et c'est un combat. Et c'est une lutte. Et c'est pas quelque chose qui vient comme un réflexe naturel. Et puis, il y a des femmes qui aimeraient avoir des enfants, mais il n'y a pas de partenaire, ou l'enfant ne vient pas. Des expériences très différentes. Mais voilà, vous qui êtes jeune et belle, belle jeune femme de 26 ans, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes mûr aujourd'hui pour envisager de faire un bébé ? C'est-à-dire, voulez-vous garder la bénédiction pour vous ou acceptez-vous de la partager ? Voulez-vous vous occuper de votre propre qualité de vie ou voulez-vous donner la vie à d'autres ? Avez-vous commencé à rêver à la maternité ? Avez-vous déjà joué à la poupée pour vous mettre en condition ? Vous êtes-vous déjà dit, quand je serai grande, je ferai un beau bébé ? J'ai pris mon annuaire évangélique et j'ai étudié ça un petit peu. J'ai cherché dans l'annuaire 1977 et j'ai trouvé trois églises évangéliques à Clermont-Ferrand. Il y avait l'Armée du Salut, l'Assemblée de Frères et les ADD. Et puis, je regarde l'annuaire de 2008 ou 2009 et je vois six églises. Simon me dit qu'il y a peut-être sept ou huit. Église évangélique. Et il y a des progrès encourageants. Le nombre d'églises a plus que doublé en 30 ans. Mais dans ce département qui compte 600 000 habitants, il n'y a qu'une quinzaine d'églises évangéliques. C'est très peu. Actuellement, en France, on est en train de mettre en place le Conseil national des évangéliques de France. Et il y a une commission implantation d'églises au CNEF qui propose comme cible à viser dans notre ville d'église une église pour 10 000 habitants. Une église pour 10 000 habitants, ça voudrait dire, enfin, d'ici 2020, une église pour 10 000 habitants à Clermont, ça veut dire qu'on double le nombre d'églises dans la ville de Clermont ou qu'on quadruple le nombre d'églises dans l'agglomération. Qu'on quadruple le nombre d'églises dans le département pour qu'il y ait une église pour 10 000 habitants. Quels sont vos projets ? Vos projets personnels et vos projets d'église. Le psalmiste nous dit, si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Et l'apôtre Paul a une parole surprenante. Il nous dit dans 1 Corinthiens 6 que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a achetés très cher pour nous rendre libres. Et parce qu'il est notre nouveau propriétaire, il a des projets pour nous. Il veut que nous vivions pour sa gloire. Tu as payé très cher notre liberté. Et il nous invite à nous aligner sur ses projets, à rentrer dans ses projets. Alors, vous êtes devant un défi aujourd'hui. Belle jeune femme de 26 ans, qu'allez-vous faire de votre vie? Saurez-vous vous aligner sur les projets de Dieu? Allez-vous ressembler de plus en plus à une famille bénie de Dieu? Et deviendrez-vous de plus en plus une bénédiction pour les autres? Voilà, il me semble, comment la question se pose aujourd'hui pour vous, Église de Clermont. Alors, à vous de réagir. Et c'est juste, tout ce qui vient d'être dit. Et si c'est juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à vous, très librement, vos réactions, vos questions. Pas tous en même temps. Hein?
Pour moi, c'est pas nouveau. J'ai toujours donné des décisions majeures dans la main de Dieu.
Alors, ça c'est une chose sur le plan personnel. C'est déjà un peu plus compliqué en couple. Parce que monsieur a une idée et madame a une autre idée. Hein? Ah ben c'est clair, chez nous, madame il aimerait partir en Bretagne pour la retraite au bord de la mer. Mais monsieur est tellement parisien que ça lui semble impossible. Alors on a dû trouver un compromis. Hein? Mais alors, il y a des projets individuels et il y a aussi des projets d'église. L'église baptiste Clermont-Ferrand est un corps. Et bon, vous n'êtes pas marié à l'église de Clermont-Ferrand. Hein? Moi, j'ai juré que je serai fidèle à mon épouse jusqu'à la mort. Vous n'avez pas juré comme ça vis-à-vis de l'église. Mais vous avez pris un engagement dans l'église. Comment discerner ensemble la volonté de Dieu pour vous? Nous allons essayer de voir comment c'est possible au cours de ce week-end.
On n'est pas forcément tous au même niveau. Il y en a qui sont membres et il y a d'autres qui ne sont pas membres.
Oui. Oui. Oui.
Il y en a qui sont fonceurs et puis il y en a qui sont...
Oui. C'est très intéressant quand on essaie de monter un projet à plusieurs. Hein? Parce que ça demande aux fonceurs de patienter, d'expliquer les choses, de rassurer ceux qui sont inquiets, etc. Mais si on veut bâtir à plusieurs, il faut prendre le temps de se mettre d'accord.
Ce que je comprends, un projet de toute façon, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel ou église, un projet n'est pas un projet sans un objectif. Donc on veut aller, on veut atteindre un but par un projet. Et ce que le message que j'ai entendu là cet après-midi, c'est attention de ne pas tomber dans le piège qu'un projet d'église, normalement, ce n'est pas un projet d'être à l'aise, être mieux ensemble comme une église vers nous en interne, mais c'est d'apporter une bénédiction vers les autres. Pour moi, c'est le message clé que je retiens. Et si on veut un projet, il faut définir qu'est-ce qu'on veut de ce projet. Ce qu'on veut, ce n'est pas tout simplement le bien-être de nous-mêmes.
En fait, on doit chercher non pas notre projet à nous, mais le projet de Dieu.
Vous aussi, oui.
Et la difficulté, c'est que la difficulté, je ne sais pas si vous connaissez la difficulté, mais peut-être, oui, c'est que parfois on a déjà des idées.
Hein?
Est-ce que ces idées-là font partie du projet de Dieu ou est-ce que c'est nos idées à nous? C'est ça, parfois, la difficulté. Hein?
Moi, je dirais, si on revient à l'introduction de départ, c'est on a des locaux qui sont un peu exigus et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, donc, dans les solutions possibles, je vais en parler de deux, c'est un SMH, par exemple, ou partir ailleurs pour des locaux plus grands. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, des locaux, on peut penser une étape locaux plus grands, il y a bien de toute façon un moment. Bon, moi je dirais ce qui est difficile là-dedans, c'est de trouver justement véritablement la voie du Seigneur, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas sa voie, finalement on fasse tout tomber par terre, c'est-à-dire qu'on arrive ni à rien, c'est-à-dire que là on va dire on est par exemple des locaux démesurés, je connais des exemples d'églises qui ont eu des locaux démesurés et qui et ça fait mourir l'église. Et puis on peut aussi avoir des expériences d'essaimage qui ne fonctionnent pas du tout. Il faut finalement rapatrier, enfin tu le connais bien mieux, il faut rapatrier tout le monde à nouveau, et tout le monde s'est épuisé. Enfin, je dirais que c'est ça le problème. Ça, voilà. Et puis comme je suis trésorier, je pense aussi aux ressources financières.
Oui, les trésoriers sont là pour nous ramener les pieds sur terre, hein, de temps en temps. Juste un instant.
Mais comme on l'a déjà dit une fois en Assemblée générale, les ressources financières d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Ça peut très bien prendre le chemin des objectifs vers lesquels on se dirige. D'ailleurs, à Clermont, on a fait qu'augmenter depuis 10 ans.
Alors, vous avez compris cet après-midi que j'aime beaucoup cette image de la maternité et que ça me semble très parlant pour l'Église. Et je dirais même que la maternité devrait faire partie de l'expérience normale de l'Église. Une Église en bonne santé devrait être mère plusieurs fois au cours de sa vie. Mais, alors, cette image est là aussi pour nous montrer que ce n'est pas la maternité n'importe comment et de n'importe quelle manière. Une gamine de 13 ans qui rêve d'être maman, on va lui dire du calme, il y a autre chose à faire avant de passer par là. Il y a un temps pour la maternité. Et à un jeune couple qui vient de se marier, on va dire, vous avez besoin de fonder votre vie de couple, d'abord. Vous avez besoin de vous adapter l'un à l'autre. Bon, vous pouvez faire un bébé tout de suite si vous voulez, mais la sagesse veut qu'on prenne un peu de temps pour la vie de couple avant de vous lancer dans l'aventure. Et ce n'est pas « faites des bébés comme ça hein. ». Les églises ne sont pas des lapins. Hein. Et il y a, enfin, il y avait autrefois des mères qui mouraient en couche. Et effectivement, la maternité était fatale. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est rare. Mais on peut imaginer que l'accouchement d'une église, enfin, donner naissance à une église, que ça soit un coup mortel porté à la vie de la mère. Donc il faut être sage aussi. Alors, il y avait une main levée par là. En fait, ce qu'on appelle souvent des projets sont, lorsqu'on parle de projet, il s'agit de la mise en place de moyens pour atteindre un objectif, pour mener à bien un projet. Moi, c'est André, toi, c'est
Yvan.
Yvan disait tout à l'heure que c'est important d'avoir un objectif. Hein? Et alors, quelqu'un a dit, nos églises n'ont pas de projet, elles ont des activités et des problèmes. Hein? Et ça, malheureusement, c'est vrai de beaucoup d'églises. Elles ont des activités et des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas où elles vont. Et c'est peut-être vrai de vous ici aussi. Il y a, dans beaucoup d'églises évangéliques, il y a quelques-uns d'origine darbiste, il y a des Britanniques qui traînent par-ci, par-là, d'origine anglicane ou autre, il y a quelques catholiques, d'origine catholique, il y a des gens d'origine pentecôtiste, il y a d'autres d'origine charismatique, il y a quelques réformés, et ça fait un cocktail inimaginable, et ils sont tous en train de tirer dans leur sens pour que ça soit un petit peu plus liturgique ou un petit peu plus enthousiaste ou un petit peu plus ceci, un petit peu plus cela. Et parce qu'ils tirent tous dans des directions différentes, voilà, effectivement, l'Église a des activités et des problèmes.
Hein? Oui, on a vécu une situation exactement comme ça quand on était à Cholet. Et malheureusement, en fait, ça s'est mal passé à la fin. Mais c'était exactement comme ça, oui. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes.
Est-ce que, si je comprends bien, ça veut dire qu'on n'aurait pas intérêt, dans un premier temps, à essayer de bien déterminer où, là où on en est, dans notre, comme tu disais tout à l'heure, la naissance
naissance,
la maturité,
croissance,
etc. Avant de se prononcer. Je pense à une image qui m'est venue tout à l'heure quand Simon parlait de la question des ressources. Quand j'ai eu mes trois enfants, quand nous avons eu nos trois enfants tout petits, on n'était absolument pas en mesure d'assumer des études, s'ils devaient faire des études à leur naissance, comme ça, les frais qu'aurait pu coûter leurs études. Aujourd'hui, on est là. Et puis, donc, ça veut dire qu'avec trois enfants qui ont des études, donc ça veut dire que la vie s'est construite et qu'à un moment, eh bien, les choses se passant, grâce à Dieu, bien, on peut assumer cette charge-là. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement chez tout le monde. Donc, l'idée, c'est de dire où est-ce qu'on en est dans notre stade d'évolution. Est-ce que c'est pas une première étape peut-être de prendre une décision, une position
Oui. Alors, il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Hein? C'est vrai qu'il y a des gamines de 12-13 ans qui ont les moyens physiques de faire un enfant, mais c'est trop tôt. Mais la femme qui attend 45 ans pour faire son premier enfant, elle a trop attendu. Il y a un bon moment, il y a une fenêtre favorable pour faire des enfants. Et il faut prendre le temps de mûrir, de se former, de se préparer pour cette expérience de la maternité. Mais il ne faut pas remettre ça trop tard. Passé 35 ans, le corps d'une femme commence à perdre de sa capacité de faire des enfants. Et une église qui attend trop longtemps, qui investit trop longtemps dans sa vie personnelle, va un jour trouver qu'il n'y a plus la possibilité de se reproduire. Donc, c'est une question de sagesse. Hein? Et il n'y a pas de solution toute faite. Il y a aussi des questions de contexte. C'est une chose d'implanter une nouvelle église dans l'agglomération de Clermont. C'est autre chose d'implanter une église à Ambert ou à Saint-Nectaire. Ce sera un travail très différent. Émilie. Ah, pardon, c'est l'heure déjà.
Il va falloir conclure, en tout cas.
Ok.
Et il me semble pour conclure, il faut quand même poser l'objectif de faire un enfant, si j'ai bien compris. Et depuis 10 ans qu'on est dans cette église, il me semble avoir jamais entendu cet objectif-là. Et c'est l'objectif petit, moyen, long terme, mais ça doit être notre objectif, si j'ai bien compris.
Enfin, moi, j'aimerais que nos églises, toutes nos églises, comme des jeunes filles, rêvent de maternité. Et il me semble que cela rentre dans l'expérience normale, dans la vie normale d'une église. Il y a des exceptions. Il y a des situations où ce n'est pas possible. Il y a, si vous étiez l'église évangélique de Saint-Nectaire, hein, je dirais, c'est peut-être pas évident, nous sommes encore en situation de dépopulation rurale, c'est peut-être pas une très bonne idée de faire une église au Chambon, hein, ici. C'est pas très favorable. Mais normalement, hein, et surtout dans une ville qui continue à grandir, normalement, les églises devraient se multiplier. Alors, j'ai voulu situer ça dans le projet de Dieu. Hein? Dieu va frapper chez Abraham et il dit, je veux te bénir. Et je veux que tu deviennes une bénédiction pour d'autres. Et je crois qu'il vous dit la même chose aujourd'hui. Et pour Abraham, ça passait par un enfant. La famille d'Abraham devait se multiplier pour devenir une bénédiction à toutes les familles de la terre. Et c'est la même chose pour les églises. Si nous voulons que nos églises deviennent une bénédiction pour d'autres, cela passe forcément par la multiplication des églises. Et la situation de votre département, pour commencer par celui-là, c'est que le Puy de Dôme a besoin d'églises. Alors, je ne sais pas si c'est en 2012 ou en 2015 ou en 2020, mais je serais triste si vous n'avez pas la possibilité de vivre cette expérience passionnante de la maternité.